le chemin qui se met à monter, et les voilà tout découragés. Les voilà qu'ils remettent tout en cause, sans envie de poursuivre avec Jésus-Christ. Que de croyants qui ont fait un bout de chemin avec le Seigneur pendant une partie de leur vie, et puis un jour ils se sont arrêtés. Lentement, progressivement, graduellement, ils ont tourné le dos à Jésus-Christ. Quelquefois, ils ont tellement tourné le dos que, comme le dit l'Épître aux Philippiens, ils sont devenus ennemis de la croix de Christ, après avoir cru à Jésus-Christ. Pour eux, s'accomplit cette parole de l'Écriture qui est une prophétie extraordinaire, je veux dire extraordinairement grave. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Vous savez que l'apôtre Jean a dit que l'Antichrist viendrait, il n'est pas encore venu, en tant que personne ou en tant que système ou en tant que moyen sur cette terre. Mais l'esprit de l'Antichrist est sur la terre. Et l'apôtre Jean a dit, il est déjà au milieu de nous. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est d'être contre Jésus-Christ. Il n'est pas contre les cultes, il n'est pas contre les croyances, il n'est pas contre les fois, il n'est pas contre les rites, il n'est pas contre les cérémonies, il est contre Jésus-Christ. Et vous le savez parce que je l'ai souvent dit ici et M. Gault a souvent prêché sur ce fait qui est un fait qui nous préoccupe et qui préoccupe les croyants véritables, les préoccupe sérieusement. Dans la fin des temps, il y aura tous les signes de la foi, de la croyance, de la cérémonie, du culte, mais Jésus-Christ disparaîtra de cela. Pour ces croyants dont je viens de parler, qui se sont arrêtés sur le chemin, dont l'expérience était trop précaire et dont la rencontre avec Jésus était trop faible, pour ces croyants, l'esprit de l'Antichrist l'a emporté. Ils ont oublié Jésus-Christ. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ces découragements ? Pourquoi ces tiédeurs ? Pourquoi ces abandons ? Pourquoi il n'en faut que si peu pour décourager un croyant ? La réponse, elle est simple et elle est vraie. Parce que leur rencontre avec Jésus ressuscité, n'a été ni décisive ni bouleversante. Je voudrais vous parler ce matin de la rencontre avec le Christ ressuscité. Ils croient en Christ, mais ne l'ont pas rencontré personnellement. Ils croient en Christ, mais ils l'aiment à proportion des avantages qu'ils espèrent en retirer. Ils aiment leur religion à proportion des avantages qu'ils en espèrent. Ils croient que Jésus est vivant. Mais ils n'en sont ni convaincus, ni bouleversés. Or, Jésus est vivant, mes amis. Il est ressuscité. Toute la Bible est construite autour de la vérité de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui a le Christ a la vie. Il faut que le Christ soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis la porte. Tout est construit autour du Seigneur Jésus. Et si vous n'avez pas une rencontre décisive avec ce Jésus, bien sûr que votre religion est extrêmement précaire. Pour qui n'a pas rencontré personnellement Jésus-Christ, la première chose à faire, c'est de le rencontrer. Et la deuxième chose à faire, c'est de s'armer de cette pensée, tenir ferme jusqu'au bout. Parce que le diable cherchera à vous enlever ce Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, ce matin, je vais vous aider à le rencontrer. Je ferai tout mon possible pour que vous le rencontriez. Non pas cet après-midi, ce matin. Peut-être cet après-midi, ce sera trop tard. Je ferai tout mon possible pour que vous rencontriez Jésus-Christ ou que vous le re-rencontriez, mais de la bonne manière. Et puis, armez-vous de cette pensée, tenir ferme. Que les années passent, que les jours passent, mais que Jésus-Christ soit toujours le chemin, toujours la vérité, toujours la vie. Qu'il soit toujours la porte, toujours le bon berger, toujours le pain de vie. Qu'il soit toujours votre ami jusqu'au bout. Il y a un verset que je voudrais vous lire et qui est un verset sensationnel. Ce n'est pas un bon mot, qui est un très beau verset, sur lequel il y a beaucoup à dire et que nous allons développer partiellement ce matin. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, nous allons lire le verset 3. Pronom personnel, il, c'est Jésus-Christ. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quel verset ! Toute l'expérience est là. Quel verset ! Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne dirai pas tout, j'en garderai un peu pour mardi soir. La dernière marche, je prêcherai dessus mardi soir. Mais ce matin, je voudrais vous parler de l'heure du péché, de l'heure du pardon, de l'heure de la rencontre, de l'heure de la conviction intime et des preuves, de l'heure des épreuves et de l'attachement à Jésus-Christ. Et mardi prochain, je parlerai de l'heure de l'enseignement et de l'écoute de sa parole. Tout le monde n'a pas lu ce verset jusqu'au bout. Et les chrétiens qui n'ont lu que le début se sont arrêtés à la première phrase ou au premier mot, à la première pensée. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et moi, je voudrais vous aider à le lire jusqu'au bout. On le relit ? Après qu'il eut souffert, Jésus, tout commence par la souffrance de Jésus. Après qu'il eut souffert, ça c'est l'heure du péché. Il leur apparut vivant, c'est l'heure du pardon, puis l'heure de la rencontre. Se montrant à eux pendant 40 jours, l'heure de la conviction intime et d'épreuve. Et aussi l'heure des épreuves et de l'attachement à Jésus-Christ pendant 40 jours, leur parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça, c'est pour mardi prochain, l'heure de l'écoute et de l'enseignement. D'abord, il a souffert, le Seigneur Jésus, à cause de moi. À cause de mon péché, pour mon péché. Certains disent que les Juifs ont mis Jésus-Christ à mort. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Et mon péché y est pour quelque chose. Il est mort, il a souffert. Et peut-être que vous dites qu'il a souffert pour moi, mais il a souffert pour les autres. Ça, c'est vrai. Mais il y a en tout cas une souffrance qu'il n'aurait pas eue si je n'avais pas existé. C'est la souffrance de mon péché. Car il a porté mon péché. Après qu'il eut souffert, ça c'est l'heure du péché. Le péché a coûté cher au Fils de Dieu. Et Dieu a tellement repéré cette heure qu'il est écrit, même dans la Bible, c'était la troisième heure. Si vous lisez dans l'évangile de Marc, il est écrit, quand ils le crucifièrent, c'était la troisième heure. Dieu l'a marqué sur son agenda. L'heure du péché. Notre péché a coûté cher à Dieu, il a coûté cher au Fils de Dieu. À cause de notre péché, le Fils de Dieu est mort sur la croix. Lui, notre Créateur, lui, l'ami, lui, le pur, lui qui ne méritait pas cela, lui qui n'avait rien commis de répréhensible, il a souffert et notre péché l'a conduit jusqu'à la mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Et j'ai bien aimé quand tout à l'heure, notre frère a pu dire que beaucoup croient que Jésus est mort. Tout le monde ne croit pas qu'il est ressuscité. Or, Dieu l'a ressuscité. Et après qu'il eut souffert, il apparut vivant. Normalement, si ça avait été moi, si ça avait été vous, notre apparition aurait été pour régler les comptes. C'était normal. Vous m'avez crucifié, maintenant on va régler les comptes. Amenez mes ennemis et que je tire vengeance d'eux. Je vais vous montrer qui j'étais. Vous vous êtes trompé, eh bien vous allez le voir. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et vous vous souvenez comment il est apparu à l'apôtre qu'il avait renié, par exemple? Il ne règle aucun compte. M'aimes-tu? Car c'est l'heure du pardon. Une fois que Jésus est ressuscité, vient l'heure où il offre son pardon. Le fait qu'il ressuscite, nous rentrons d'emblée dans l'heure du pardon. Jésus ne règle des comptes à aucun pécheur. Et il dira lui-même qu'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour condamner. Je ne te condamne pas. Il est venu pour pardonner. Et Jésus veut vous pardonner. Vous ne pouvez pas vous contenter de savoir qu'il est mort pour vous. Vous devez savoir cette deuxième chose, qui est loin d'être suffisante, bien sûr, mais c'est mon message. Savoir que pour vous, il y a une heure du pardon. J'emploie le mot « heure » volontairement, parce que si je disais « l'ère du pardon » ou « le siècle du pardon » ou « la décade du pardon », vous diriez « j'ai le temps ». Or, je ne sais pas si vous avez le temps. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils avaient le temps de recevoir le pardon et leur cœur s'est éloigné de Dieu et le pardon, ils ne l'ont plus jamais demandé, ni n'y ont plus jamais pensé, ils ne l'ont jamais reçu. Donc peut-être nous n'avons pas le temps de demander le pardon. C'est donc une heure. L'heure, c'est le moment où Dieu s'approche de nous, où nous nous trouvons dans la maison de Dieu, où nous ouvrons la Bible, où nous prenons le temps de réfléchir, où nous nous arrêtons dans notre vie pour penser à Dieu. C'est l'heure où nous devons recevoir le pardon de Dieu. Ce pardon, nous le recevons à condition de le demander. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'éternité un être, ou qu'il y aura dans l'éternité un être qui aura été pardonné par hasard, parce qu'il aura été là au bon moment. Je pense que tous ceux qui sont là, d'abord l'apôtre Jean le dit, il y a une foule nombreuse, il dit, qui sont-ils tous ces gens-là vêtus de blanc, qui chantent un cantique, qui sont devant l'agneau, qui sont-ils? Et puis on lui donne la précision, c'est parce qu'ils ont lavé leur cœur dans le sang de l'agneau. Pour cela. Donc, tous ceux qui seront dans l'éternité, ils seront pour avoir un jour demandé pardon au Seigneur. L'avez-vous fait? Avez-vous pensé à cette chose si importante? Les hommes pensent bien à leur retraite, ils pensent bien aux choses importantes de leur vie, ils programment bien des étapes. Pourquoi ne penseraient-ils pas au pardon de Jésus-Christ? Et pourquoi ne viendrait-il pas demander pardon? Ensuite, c'est l'heure de la rencontre. Il leur apparut. Comme j'ai dit qu'aucun croyant dans le ciel ne s'y trouverait sans avoir demandé pardon, je peux dire avec vérité qu'aucun croyant ne sera dans l'éternité sans avoir un jour rencontré personnellement Jésus-Christ. Ça n'est pas pour avoir eu un père ou une mère chrétien, ça n'est pas pour avoir eu des ancêtres chrétiens, c'est pour avoir rencontré Jésus-Christ. Il s'agit d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Avez-vous rencontré le Seigneur Jésus? Je ne pense pas qu'il y ait sur terre une personne qui un jour ait dit « Seigneur, si tu existes, je veux te rencontrer » et que cette prière n'ait pas eu d'effet. Je crois que Dieu est tout à fait d'accord pour vous rencontrer. Les disciples, eux, ont rencontré Jésus-Christ. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, quand on lui a dit que Jésus-Christ était ressuscité, il a couru au tombeau, il est rentré dans le tombeau, c'était une caverne, il a regardé, il n'a vu personne, et la Bible nous dit qu'il est rentré chez lui, ne sachant que penser de tout cela. Ça tournait dans sa tête, il ne savait pas que penser. Puis quelque temps après, toujours Pierre, et sur une barque en train de ramener un filet, quelqu'un est sur la plage en train de faire rôtir du poisson, et il y a quelqu'un qui dit à Pierre, c'est peut-être le Seigneur. Et la Bible nous dit, il ne l'avait pas reconnu. Et puis, quelque temps après, vous voyez mon Pierre qui est devant des milliers de gens en train de prêcher. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Ah bien, dites donc, il a rencontré le Seigneur. Il leur apparut vivant. Il a rencontré le Seigneur. Vous êtes d'accord qu'il l'a rencontré ? Il a rencontré le Seigneur. Tout a changé dans sa vie. C'est vrai pour Pierre, c'est vrai pour les autres. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, Saul de Toulouse, lui c'était Saul de Tarse, qui ravageait les églises, qui était contre le christianisme, qui ne supportait pas de voir des gens prononcer le mot de Jésus-Christ. Nous y reviendrons à cela. Il y aura un jour où on ne supportera pas le nom de Jésus-Christ sur la terre. Et Saul ravageait les églises partout où l'on prononçait le nom de Jésus-Christ. Et un jour, il est là sur son cheval. Une lumière extraordinaire lui apparaît, il tombe du cheval, il en est aveugle tellement la lumière l'a transpercé, il entend une voix que les autres entendent sans l'entendre, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ce Saul, que plus tard on appellera Paul, vous le retrouvez lapidé, vous le retrouvez roué de coups pour le nom de Jésus-Christ, vous le retrouvez dans l'arène d'Éphèse en train de combattre les bêtes sauvages parce qu'il était chrétien, vous le retrouvez en train de traverser 1000 épreuves pour Jésus-Christ. Dites-moi, n'a-t-il pas rencontré Jésus-Christ ? Il a rencontré Jésus-Christ. Quelqu'un dira, c'était dans la Bible. Ben, je peux vous dire que ce qui est arrivé à Saul de Tarse est arrivé à d'autres. Il y avait un moine qui s'appelait le Sadhu Sundarsingh. Sadhu, ça veut dire le moine. C'était la fonction de certains moines. Il y a un siècle et demi, Sadhu Sundarsingh, Sundar, c'était son nom, qui était absolument contre l'évangile, opposé à Jésus-Christ, ennemi de Jésus-Christ, et à qui il est arrivé la même affaire que Paul. Sundar, Sundar, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il a terminé sa vie, le Sadhu Sundarsingh, il a terminé sa vie chrétien Sundarsingh, annonçant Jésus-Christ. Il est venu quelquefois en Europe, mais il a beaucoup travaillé dans le Tibet notamment, et en Inde. Il a rencontré Jésus-Christ. Tous les gens qui peuvent parler de Jésus-Christ, qui peuvent employer le mot de Jésus-Christ, qui peuvent prier Jésus-Christ, qui attendent le retour de Jésus-Christ, toute personne qui croit à ce que la parole de Dieu dit, a un jour dans sa vie rencontré Jésus-Christ. Ils l'ont rencontré. Il leur a paru vivant. Ce matin, vous pouvez le rencontrer, le Seigneur Jésus. Vous devez le rencontrer. Qui que vous soyez, si vous dites « Seigneur Jésus, je ne te connais pas, c'est ma première prière, je te prie, révèle-toi à moi », je vous dis que vous rencontrerez le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez faire quelque chose, ça ne se fera pas tout seul. Il peut passer à côté de vous sans que vous vous en rendiez compte. Il faut le chercher en tâtonnant, dit la Bible. Il faut le prier, il faut le vouloir, il faut l'appeler, il faut l'invoquer. Mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 5. Regardez, je vous le lis, faites-moi bien confiance, je vais essayer de rien sauter. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'était Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et on pourrait dire, après, il est apparu à tous les croyants de toute la terre. Jésus-Christ vous est-il apparu ? Avez-vous rencontré Jésus-Christ ? Je ne demande pas si vous avez une religion. Dieu n'a rien à faire avec nos religions. Ça, ce sont des fabrications humaines. Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ ? Après l'heure de la rencontre, il y a l'heure des preuves. Des preuves. Ou l'heure de la preuve et de l'intime conviction. Oh, que je voudrais, mes frères et sœurs, que vous passiez à ce stade-là. Parce que beaucoup de chrétiens ont des mouvements de descente et de remontée, de descente et de remontée, parce qu'il n'y a pas en eux les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Ils croient, mais ils se demandent. Ils remettent quelquefois en question. Et Jésus-Christ, il leur en a donné plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Ils ont été convaincus. Dieu veut vous convaincre que Jésus est ressuscité. Et vous devez être des croyants convaincus. Un croyant convaincu que Jésus est ressuscité est un croyant solide. Il ira loin, ce croyant-là. Peut-être il pleurera un jour parce qu'il passera dans l'épreuve. Peut-être un jour il sera comme désarçonné, comme s'il était tombé de sa monture. Mais il reprendra vigueur avec Jésus. Il n'est pas interdit à un croyant d'être momentanément découragé, mais parce qu'il est convaincu, parce qu'il sait que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il en a des preuves, vous verrez toujours ce croyant se remettre d'aplomb et reprendre avec le Seigneur Jésus. Et ce ne sont pas des paroles qui l'arrêteront, ce ne sera pas le chemin qui monte qui le détournera, ce n'est pas un incident qui l'arrêtera, il est convaincu et il sera fidèle jusqu'au bout. L'heure des preuves. Il y en avait un qui disait un jour, on lui disait Jésus est un pécheur, on te dit que Jésus est un pécheur. Et lui, il disait, moi, je ne sais pas si Jésus est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça, c'est une preuve. L'apôtre Paul dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. C'est une phrase, ça, je sais. Est-ce que nous pouvons dire, je sais en qui j'ai cru ? L'apôtre Jean dit, nous savons que nous l'avons connu. Ça aussi, c'est une phrase, on lit ça vite. Mais, oh, que les chrétiens puissent dire la même chose. Nous savons que nous l'avons connu. Et l'apôtre Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Si vous prenez un croyant et vous lui dites, mais prouve-moi que Jésus est ressuscité. Comment crois-tu que Jésus est ressuscité ? Je vais vous dire ce que répond ce croyant-là. Il dit, je ne peux pas vous le prouver, mais je le sens. Je le sens. Prouvez-moi que Jésus est vivant. Peut-être un jour on vous a fait cette question un petit peu ridicule. Et vous avez dit, je ne peux pas le prouver, mais je sens que c'est vrai. Parce que les preuves sont intimes. Quelqu'un qui a rencontré Jésus reçoit des preuves dans sa vie. Lorsque son péché est pardonné, c'est une preuve extraordinaire. Ce n'est pas une phrase qu'il apprend, c'est un fardeau qui sort de son cœur. C'est un soulagement. Lorsque son passé est lavé, lorsqu'il sait que Dieu ne regarde plus son péché, que Dieu ne le regarde plus comme un pécheur, qu'il est pardonné, qu'il est purifié, il en a la preuve. Il ne peut pas vous le montrer noir sur blanc, mais c'est une preuve qu'il a en lui. Et lorsque Jésus l'a guéri, lorsque Jésus est venu en son secours, parce que nous croyons encore que Jésus guérit. Je crois qu'on a mal prêché l'évangile en ne prêchant que la guérison, quelquefois, et en prêchant beaucoup trop la guérison. Et on a détourné l'objectif numéro un, qui est de s'attacher à Jésus-Christ, quel que soit notre état de santé. Mais Jésus-Christ guérit. Et vous pouvez faire des expériences avec le Seigneur Jésus. Vous pouvez avoir des preuves dans votre vie de guérison, des preuves de délivrance de chaînes. Il y a des gens qui avaient des chaînes, il y avait des gens qui avaient des passions, il y a des gens qui traînaient des boulets à leurs pieds. Et Jésus-Christ les a libérés. Et quand vous leur dites, prouvez-le-moi, ils vous disent, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. C'est là que le Seigneur veut vous amener, chrétiens, croyants. L'heure du péché, l'heure du pardon, L'heure de la rencontre, vous avez fait tout cela, frères et sœurs. Maintenant, l'heure de l'intime conviction. Et croyez-moi, nous en aurons besoin dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Jésus a dit, je vous ai tout annoncé d'avance, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez. L'intime conviction. Ça sera un peu pour mardi soir. Que le Seigneur fasse que l'Église de Sainte-Agne, les croyants de Sainte-Agne, les chrétiens de Toulouse, soient des chrétiens convaincus. Ce n'est pas parce qu'on lit le journal qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un à la télé a dit tel reportage, vous voyez, ça fait référence à un site biblique. Ah, voilà, je crois, site biblique, je crois. Site biblique ou pas site biblique, ce n'est pas ce qui nous fait croire. Ce qui nous fait croire, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ. C'est de nous être mis à genoux dans notre chambre et d'avoir dit « Seigneur Jésus, je suis un pécheur, pardonne-moi » et d'avoir senti qu'il nous pardonnait. C'est d'avoir dit « Seigneur Jésus, viens à mon secours » et d'avoir senti qu'il venait à notre secours. Il se montra, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves. Voilà, chrétiens, ce que le Seigneur veut faire avec vous, vous rendre des gens convaincus. Il me semble que le rôle de l'Esprit-Saint, c'est aussi un rôle de conviction. Quand il sera venu, il convaincra, c'est de donner des convictions, et le Seigneur Jésus veut vous donner des convictions. J'ai dit, je voulais faire un jeu de mots, mais je l'ai mal fait, mais en fait, ça fait rien. J'ai dit qu'après l'heure d'épreuve, il y a l'heure des épreuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Moi, je le comprends comme ça. Vous savez que 40, dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. Les chiffres ont une certaine correspondance, un certain symbole, et 40 est le chiffre de l'épreuve. Il est souvent mentionné en rapport avec l'épreuve. Et Jésus s'est montré à eux pendant 40 jours. Il s'est montré, il ne voyait plus. Ils se remontraient, ils redisparaissaient. Et chaque fois, les autres faisaient un petit progrès. Chaque fois, ils apprenaient quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Ils le voyaient sous un angle où ils ne le connaissaient pas bien. Et Jésus se remontrait, redisparaissait. Passait-il un jour sans qu'ils le voient, deux jours? La Bible ne dit rien de cela. Comme je vous montrerai mardi que la Bible ne dit absolument rien de tout ce qu'il leur a dit pendant ces 40 jours. Mais ils se montraient. Et chaque fois qu'ils se montraient, les autres progressaient. On a un ou deux exemples. Vous savez, un jour, ils rentrent dans la chambre haute où ils étaient enfermés. Les portes et les fenêtres étaient fermées. Jésus rentre. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ils regardent, ils voient Thomas. Il est là, Thomas. Thomas, approche. Approche. Viens mettre tes doigts dans le creux de mes mains. Il s'est montré. Il leur a donné plusieurs preuves. Puis, il a disparu. Puis, il est revenu. Mais pendant ces 40 jours, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Moi, je sais, c'est ma profonde conviction, que Jésus les a modelés, les a pétris, a mis à l'épreuve de plus en plus, a mis à l'épreuve leur résistance, leur foi, leur conviction, et a fait en sorte que par des apparitions appropriées, adéquates, leur foi était de plus en plus enracinée et ils étaient de plus en plus solides. Et il y a des croyants qui, dans les épreuves, tourne le dos à Jésus-Christ. Oh, si c'est pour avoir des épreuves. Mais les épreuves, vous savez, aussi dehors, ils les ont. Hein. Les incroyants aussi ont les épreuves. Mais quelquefois, nous pouvons avoir des épreuves parce que Jésus veut mesurer notre degré de confiance. Par exemple, il est écrit dans le livre des Proverbes, « L'ami aime en tout temps ». Proverbe 17:17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Si vous dites que Jésus est votre ami, qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes dans l'épreuve? Jésus, je te suivrai partout. C'est un cantique que je voulais vous faire chanter, puis je n'avais pas bien la musique. Jésus, je te suivrai partout. Une autre strophe dit, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Une autre dit, je te suivrai toute ma vie. Si pour moi tu m'aides, Seigneur, si tu m'aides, je te suivrai toute ma vie. Même si c'est dans l'épreuve. Il est écrit dans la Bible, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Quand tu étais fiancé et que tu me suivais au désert, l'aimer. L'attachement au Seigneur Jésus. Pendant ces 40 jours, Jésus a fait en sorte qu'ils se sont attachés à lui. Jésus veut la même chose avec nous. L'épreuve, c'est pour nous attacher à Jésus-Christ. L'épreuve, c'est pour vous attacher à Jésus-Christ. Non pas pour vous détacher, non pas pour vous décourager. Jésus veut que vous soyez son ami. Il veut être votre ami. Et il veut que vous l'aimiez en tout temps. En toutes circonstances, comme on l'a chanté tout à l'heure, dans le temps des épreuves, dans le temps des difficultés, que ce soit sur le chemin qui conduit dans les verts pâturages, que ce soit sur le chemin qui conduit vers le désert. Pendant 40 jours, il s'est montré à eux et il a assis leur confiance. Que le Seigneur fasse, frères et sœurs, que nous soyons des chrétiens solides en lui et que rien ne nous décourage. L'heure du péché, nous l'avons vécu. L'heure du pardon, merci Seigneur Jésus pour l'heure du pardon. L'heure de la rencontre, vous vous souvenez quand vous avez rencontré le Seigneur Jésus? Vous vous souvenez? Ou peut-être vous ne vous en souvenez pas. Il faut le re-rencontrer. Le Seigneur vous cherche. Le Seigneur cherche quelqu'un ce matin. Il veut vous rencontrer. Et si vous dites, ici ou chez vous, mais si vous lui dites, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, vous le rencontrerez. Et puis vous grandirez. Il y aura pour vous des intimes convictions, des preuves. Il vous montrera qu'il écoute, qu'il est là, qu'il répond, qu'il guérit, qu'il sauve, qu'il baptise. Il vous donnera des preuves. Et vous deviendrez un chrétien si convaincu que vous vous attacherez à lui. Et que dans l'épreuve, vous resterez son ami et vous serez attaché à Jésus-Christ jusqu'au bout. Amen. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur. Je vais demander à notre frère de choisir quatre frères qui viendront préparer la Sainte Cène. Nous allons prendre la Sainte Cène en remerciant le Seigneur parce qu'il est notre ami. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour. Seigneur Jésus, j'ai connu l'heure du péché, mais j'ai connu l'heure du pardon. Et peut-être quelqu'un dans cette salle n'a connu que l'heure du péché et pas encore l'heure du pardon. Seigneur Jésus, que ce soit maintenant l'heure du pardon pour lui. Nous te le demandons. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le jour où je t'ai rencontré. Merci pour le jour où les croyants t'ont rencontré. Merci pour cette rencontre, rencontre personnelle. Certes, tu as pu favoriser les choses par des ascendants croyants, tu as pu favoriser les choses par une vie vécue près d'une église. Mais nous t'avons rencontré d'une manière ou d'une autre. Seigneur Jésus, peut-être quelqu'un ne t'a-t-il pas rencontré dans ce lieu. Peut-être quelqu'un t'a-t-il rencontré et t'a-t-il oublié. Peut-être quelqu'un a-t-il fait marche arrière. Retrouve-le ce matin, Seigneur Jésus. Que toute l'Église puisse se dire, Seigneur Jésus, je veux être dans cette intime conviction que tu es ressuscité. Comme tu t'es montré aux disciples vivants, eh bien tu te montres à nous vivants et tu nous en donnes des preuves. Et puis, si tu nous entraînes dans l'épreuve, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas rechigner. Nous ne voulons pas remettre en cause notre amour. Nous voulons t'aimer même dans le désert. Même pendant les 40 jours où nous te voyons et ne te voyons plus. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus. T'aimer de tout notre cœur. Peut-être y a-t-il dans cette salle un croyant qui s'est découragé à cause des épreuves. un croyant qui n'a pas compris pourquoi sa vie était dans la difficulté, pourquoi il allait au désert. Peut-être y a-t-il un cher frère, une chère sœur qui s'interroge et qui se dit, mais est-ce que c'est vraiment mon ami si je suis dans l'épreuve? Seigneur Jésus, nous voulons aimer notre ami en tout temps et nous montrer un frère, même dans les jours difficiles. Seigneur Jésus, bénis cette Église et que quiconque ce matin te rencontre et soit solide et soit attaché à Jésus-Christ, enraciné à Jésus-Christ, prêt à traverser toutes les difficultés, prêt à te donner gloire jusqu'au bout. Amen. Nous voulons te prier, Seigneur Jésus, pour la Sainte Cène que nous allons prendre. Merci pour le pain et le vin. Merci parce que ce geste fraternel que nous allons faire et ce geste spirituel nous prouve que tu es notre ami et que tu ne cherches pas à tirer vengeance de nos péchés, mais que tu nous pardonnes. Seigneur, merci pour le pain et le vin. Merci pour la coupe. Merci pour le corps de Jésus-Christ livré. Merci pour la rencontre avec toi. Et ce moment de cette scène nous prouve une fois de plus que tu désires encore nous rencontrer. Seigneur Jésus, bénis le moment de la scène et que chacun soit fortifié dans sa vie et dans son cœur. Amen.